de l'Inde. Et puis, il n'y a pas que ces continents-là qui sont concernés. Il y a aussi le Brésil, il y a aussi d'autres régions du monde qui sont dans cette logique-là. Alors, je dirais, il y a ces jeux de marché. Ces jeux de marché, ben, ils nous échappent parce que ce sont des jeux d'experts, de spécialistes, avec des phénomènes de spéculation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, qui échappent au quotidien des particuliers. Et par rapport à ça, nous sommes dans une situation sur le plan financier. Ça répondra peut-être à la question sur Natixis, sur ce plan financier qui est particulière, parce que nous avons notre société, notamment notre État, a cultivé une telle aversion au risque qu'aujourd'hui la France se trouve dans une situation paradoxale où elle fait partie des pays qui épargnent le plus dans le monde avec le Japon et qui place le moins son argent sur, je dirais, du productif ou du compétitif. Alors là, on retrouve la discussion de tout à l'heure sur cette problématique d'investissement du français. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos banques regorgent de liquidités du fait de cette épargne, mais n'arrivent pas à le placer chez nous. Et tout ça est placé sur les hedge funds, toute l'ingénierie financière, notamment nord-américaine, qui est beaucoup plus créative et beaucoup plus percutante dans ce domaine-là. Alors je partage tout à fait votre analyse sur le fait qu'il faut aujourd'hui, et ça répondra peut-être à la question sur la problématique du législatif, je pense que ce pays souffre non seulement d'un cholestérol bureaucratique à un niveau trop pareil, je crois qu'on est en train de battre la Russie ou la Chine dans ce domaine-là, mais souffre surtout d'une inflation législative qui, lorsque vous êtes chef d'entreprise, qui a été quand même le cas pour moi pendant plus de 20 ans, ben, je veux dire, est absolument effrayant. Enfin, je veux dire, et donc je crois que si on doit aujourd'hui aider notre pays pour l'aider à s'en sortir, bon, il faut traiter ce problème de dette très rapidement, parce que ça c'est une hémorragie qui risque de nous mettre à genoux de façon durable. Il ne faut pas attendre de se trouver dans la situation de l'Argentine pour ça, mais il faut surtout libérer cette étreinte administrative et législative qui empêche l'initiative aujourd'hui. Or, on est dans un monde qui est en train de se reconfigurer à très très grande vitesse, hein, avec cette révolution, ces mutations démographiques, ces mouvements de population, cette émergence d'un monde urbain sur d'autres continents, hein, qui appelle beaucoup d'imagination, beaucoup d'audace dans les solutions qu'on peut fournir à droite et à gauche. Nos grands groupes le connaissent bien, ça, parce qu'ils sont au front sur ces grandes ouvertures. Et derrière, ben, ça signifie qu'il faudrait libérer cette étreinte pour que l'ensemble des talents de notre pays puissent répondre à ces grands défis. Et ce n'est pas les talents uniquement dans les grandes entreprises, c'est les talents dans des petites structures. On le voit bien, pourquoi l'Allemagne résiste bien aujourd'hui aux turbulences qu'on traverse.
Elle a un bon tissu de PME. Ouais.
Et oui, mais derrière la reconstruction de l'Allemagne de l'Est, elle a libéré cette étreinte au niveau local et elle a replacé les entrepreneurs et aussi la société civile au cœur des grands défis et des grands enjeux.
Là, vous allez faire plaisir à Bernard Zimmer.
Oui, mais moi, de toutes les expériences que j'ai de sortie de crise, les expériences qui ont fonctionné, c'est quand on a remis la société civile non pas aux manettes, mais au cœur des grands débats sur ces enjeux. Regardez ce qui s'est passé au Canada. Le Canada est un exemple absolument extraordinaire.
Alors, on va voilà. Venir aux exemples étrangers, bon. Mais peut-être Bernard Zimmer, une réaction.
J'ai juste une remarque là. Parce que
bien devant le micro. Bien devant le micro.
Je vous suis à 99%, mais exactement. Je voudrais apporter une précision sur l'inflation législative. Il faut savoir que l'inflation législative ne vient pas des députés ou des sénateurs. Elle vient uniquement de l'administration. Nous en avons de multiples exemples que nous avons développés dans ce livre, Le Parlement bâillonné, mais il faut savoir qu'un sous-chef du bureau de Bercy est beaucoup plus puissant que n'importe quel parti ou groupe de députés de l'Assemblée nationale. Nous avons donné de multiples exemples de textes que les députés ont voulu faire supprimer ou dans lesquels ils ont voulu faire des simplifiés et l'administration a dit non par ministre interposé car les ministres sont l'administration. Donc il ne faut pas se tromper de cible. Vous avez raison de parler de l'inflation législative, nous sommes débordés de textes de loi. Tous les jours, il y a un directeur d'entreprise doit lire au moins 7 ou 8 ou 2 nouveaux arrêtés ou décrets qui le concernent. Ça devient délirant, mais ce ne sont pas les députés qui sont dans l'ensemble qui sont responsables. C'est une fois encore l'administration.
Alors, par respect pour les auditeurs, il y a deux autres questions qui sont moins dans le technique, mais beaucoup plus dans le politique, et auxquelles j'aimerais pouvoir répondre. Parce que la théorie du complot, je dirais bien dans le sens de l'auditeur en question. Parce que c'est vrai que on sait qu'il y a cette petite caste qui dirige. Mais moi, je vois quand même au quotidien, derrière cette caste qui dirige, tout un tas de groupes. Vous savez, c'est comme les métastases d'un cancer qui s'installe et qui vivent bien hein, de cette situation, et voire même l'utilisent, l'instrumentalisent pour des finalités aujourd'hui qui... et je pèse mes mots en disant ça, hein. Je sais que c'est très grave, mais bon, on entretient parfois des logiques un peu claniques, mais vont jusqu'à la mafiosité. Hein. Et nuisent aujourd'hui à ce climat de confiance qu'il faudrait restaurer dans ce pays. Je pense que les...
Vous pouvez donner un exemple un petit peu pour être un peu précis
afin... Vous savez, puisqu'on parlait de nos amis parlementaires, le grand jeu aujourd'hui hein, entre certaines structures de l'État qui maîtrisent un petit peu le jeu politique et puis nos parlementaires, c'est chaque fois qu'il y en a un qui a une bonne idée, hein, enfin un parlementaire, c'est de l'identifier et de le neutraliser assez rapidement. Et on le neutralise comment ? En lui donnant une mission parlementaire et en l'entourant, en l'enserrant d'un certain nombre de technocrates ou de gens qui sont dans des petits clans, etc. Le rapport est déjà écrit, avant même que le parlementaire ait fait sa mission. Et généralement, ça débouche, et là on peut faire la cartographie, ça débouche sur la création d'une commission et selon l'autorité du parlementaire, d'une agence. On lui attribue généralement entre 5 et 20 millions ou 20 millions d'euros de budget par an. Et moyennant quoi, quand on connaît les inerties budgétaires du fonctionnement, pour arriver à démonter le truc, il faut à peu près entre 5 et 10 ans. Quand vous regardez, c'est plus le parlementaire très rapidement qui est le maître d'œuvre de cette opération, et vous retrouvez des petits groupes, de cette espèce d'oligarchie dirigeante qui prennent le contrôle de ces commissions et qui se nourrissent sur la dette. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, bon, le problème de la dette, on peut le régler assez rapidement. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. C'est pas très compliqué. Il y a une certaine technicité. Mais dans cette technicité, il y a surtout une décision fondamentale à prendre, qui est de remettre l'État sur ses vraies fonctions régaliennes, où aujourd'hui, il n'est plus forcément, hein, et de réduire toutes ces aspérités qui se sont créées et qui nourrissent toutes ces logiques corporatistes, claniques, clientélistes, tout ce qu'on peut imaginer, oui, utiliser.
Féodal dans le mauvais sens du terme.
Oui, mais qui absorbe toute l'énergie, je dirais, de notre État, de nos impôts aussi, hein, parce que cet État fonctionne comme avec nos impôts, et qui aboutit aux résultats qu'on connaît aujourd'hui. Et ça me semble fondamental. Et là, même s'il n'y a pas forcément une théorie du complot qui pourrait être... explicité, il y a un mode de fonctionnement, je dirais, de ces logiques de caste qui est loin d'être négligeable. La deuxième chose, c'est pour qui faudrait-il voter ?
Alors oui, moi, j'ai beaucoup de questions en ce sens. En fait.
Alors moi, je vais vous dire.
Je vous la renvoie.
Mon choix n'est pas complètement fait à l'heure actuelle. Je pense que mon choix se portera sur celui qui arrêtera de faire des oxymores. Vous savez ce qu'est un oxymore.
Oui, c'est une obscure clarté qui tombe des étoiles, comme aurait dit Victor Hugo.
C'est l'égalité des chances, comme si la chance pouvait être égalitaire. Enfin bon, je veux dire, c'est la fin du risque zéro, comme si il pouvait y avoir un risque à l'état zéro. Enfin,
oui, bon, dans ce cas-là, c'est plus un risque.
Mais je pense que, si vous voulez, il faut que le corps politique clarifie sa pensée et soit plus direct et plus explicite vis-à-vis de la population dans l'usage des mots qu'il utilise. À force de faire dans les noms composés, on finit par dire n'importe quoi et son contraire. Je pense qu'aujourd'hui, la France, pour la parcourir en long et en large, aller au contact, si vous voulez, des chefs d'entreprise, des populations sur le terrain et de bien la sentir, hein, et c'est Henri Poincaré qui disait que c'est avec... la logique que l'on prouve, mais c'est avec l'intuition que l'on découvre. Hein. Bon, moi, je suis plutôt sur une logique intuitive.
Il était frère d'un très grand mathématicien.
Oui, oui. Et c'est avec l'intuition qu'on trouve, si vous voulez. Et moi, aujourd'hui, je vois une France qui n'est pas si idiote que ça sur le terrain, contrairement à ce qu'on veut bien dire. Nos hommes politiques et leurs petits communicants maintiennent, si vous voulez, une relation avec la population comme si il fallait la infantiliser,
oui,
continuer à materner,
voilà.
Non, je crois que les Français ont compris, ils le voient tous les jours au travers de la télévision, ils ont bien compris les paradoxes dans lesquels ils se situent, Ils ont bien compris qu'ils n'avaient pas forcément les réponses aux questions qu'ils posaient, etc. Et je pense qu'ils attendent aujourd'hui une pensée clarifiée et des postures qui sont un peu plus authentiques. Nos hommes politiques n'arrêtent pas de nous parler d'exemplarité. Chaque fois qu'ils nous parlent d'exemplarité, généralement, une semaine après, ils terminent devant un juge. Je pense qu'il faudrait qu'ils aillent beaucoup plus sur le fond, qu'ils nous en disent moins, qu'ils soient plus clairs et qu'ils incarnent véritablement ce qu'ils nous disent. Pour l'instant, c'est
Bernard Zimmermann.
Oui, alors je vous suis entièrement sur ce que vous avez dit. Je crois que nous partageons ces opinions-là à 120%. Mais je voudrais quand même insister sur un point. C'est que nous avons les hommes politiques que nous méritons. Parce que vous avez parlé tout à l'heure du rôle des think tanks, Hugues, et je crois que c'est ce qui a manqué dans ce pays, c'est que la société civile se structure et propose elle-même des solutions qui ne soient pas les solutions. Parce que l'homme politique, il n'a pas le temps, finalement, de trouver des solutions. Il ne peut que pêcher dans celles que lui offre la société civile et choisir celles qui lui paraissent les plus solides. Alors je voudrais dire que, en ce qui nous concerne, pour répondre à la question de vos auditeurs, nous n'avons pas pris parti. Pour la bonne raison, c'est que nous venons de commencer à lancer une campagne 17-24. Passer de 17 millions à 24 millions. Et là-dessus, nous avons, nous, trois mesures qui nous tiennent à cœur. La mesure fiscale pour les business angels, l'OFEC auprès du Parlement, une troisième mesure symbolique, qui est la réforme du contrôle fiscal en France, qui est devenue une véritable honte, car ça détruit des milliers d'entreprises et ça met sur le chômage des dizaines de milliers de personnes. Et ce seront pour ceux des partis qui se rapprocheront le plus de ces propositions que, dans la mesure où nous demandons à notre avis, nous conseillerons de voter.
Je crois en tout cas que pour les auditeurs, c'est un message très très clair, que on pourra nous faire beaucoup de reproches aujourd'hui, mais pas celui de la clarté et du concret. Et justement, pour rester dans le concret, j'aimerais, et notamment avec tous les deux, puisque vous avez tous les deux, Xavier Guillou et Bernard Zimmermann, une large expérience internationale, qu'on fasse un petit tour d'horizon du monde. Car je crois aussi que les Français, malheureusement, sont mal informés, voire désinformés sur le monde. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que, de temps en temps, dans ma voiture, je mets la radio, et parfois, je n'écoute pas que Radio Courtoisie. Et sur BFM, j'entendais un débat. Alors, si on peut parler de débat, parce qu'au bout de deux minutes, on est coupé par je sais pas quoi. Enfin bon, c'est, je pense, un modèle commercial qui n'est peut-être pas tout à fait le nôtre. Mais lorsque quelqu'un a dit que tout simplement, bah, que quand il y avait 5% de chômage quelque part et 10% ailleurs, il fallait peut-être s'intéresser aux méthodes qui marchaient, et que c'était vrai aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, etc., la réponse de l'interlocuteur principal était de dire oui, mais aux États-Unis, il y a 40 millions de personnes qui ne sont pas soignées.
Oui, mais ça, c'est toujours.
Et donc, je vois pas très bien si on est sur de tels mensonges, parce que moi, je suis pas allé beaucoup aux États-Unis, mais je me suis aperçu qu'aux États-Unis, il y a quand même moins de gens dans la rue qu'ici.
C'est complètement faux.
Donc, ce que je voudrais vous demander à tous les deux, c'est comment va le monde. J'ai l'impression que le monde est prospère, mais qu'il est incertain, et qu'en France, finalement, au fond de nous-mêmes, un certain nombre de décideurs préfèrent ce monde de relative misère dans lequel ils se sortent finalement assez bien, mais qui est certain, à un monde d'une beaucoup plus grande aisance, d'une beaucoup plus grande abondance, mais qui évidemment est accompagné de prises de risques avec les conséquences qu'elles supposent. Moi, c'est la vision que j'ai, on est dans le paradoxe de la modernité, on ne fait pas de prospérité avec du certain, on fait de la prospérité avec une part d'incertain qui est le lot de l'homme. Le certain, c'est la mort.
Et pour c'est le moment, la seule chose dont on se soit certain.
Voilà, et on n'est pas encore dans l'au-delà.
Et encore, comme disait Malraux, on ne meurt qu'une fois et on s'en rappelle. Non, mais je crois que, si vous voulez, pour répondre à votre question, beaucoup aimeraient que la France rejoigne, vous savez, le film d'Amélie Poulain. Je ne suis pas forcément sûr que ceux qui soient les tenants de cette dimension-là accepteraient de vivre sans eau courante, comme c'était le cas à l'époque d'Amélie Poulain, avec pas forcément un continuum d'énergie, comme c'était le cas à l'époque, pas forcément la couverture de santé, comme c'était le cas à l'époque, et puis sans TGV, sans Airbus, sans ADSL et sans téléphone portable. Donc, je crois qu'il faut, il faut pas vivre avec son temps, mais enfin, il faut être lucide. Aujourd'hui, le monde est en train de se transformer, comme je vous le disais tout à l'heure, à très très grande vitesse. 45% de la croissance mondiale se situe du côté du Pacifique et d'océan Indien, avec des peuples qui ont faim. Hein, c'est-à-dire, nous, on n'a pas faim. Nous, on a
tout. Comme on dirait chez les jeunes, ils ont la niaque.
Oui. Non, mais Fourassier disait la chose suivante, c'est que tant que les chiens mangeront mieux que leur maître, il n'y a rien à... Il n'y a pas d'espoir, je dirais, pour transformer une société sur le fond. Je dirais que c'est un petit peu le cas de notre vieille Europe, enfin d'une partie de la vieille Europe, parce que les Anglais et les Allemands sont sur d'autres paramètres aujourd'hui. Mais les 45% de la croissance mondiale qui est du côté du Pacifique et de l'Asie, c'est pas très compliqué. Enfin, je dirais, on est sur des taux de croissance de 10% sur ces zones-là, on est sur des taux de croissance de 4% aux États-Unis. Et puis on traîne autour des 2,5 voire en dessous pour la zone Europe.
Oui, pour le Japon. Chiffre non retraité.
Non retraité, tout à fait. Par rapport à ça, je crois qu'il faut être très 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 concret. Comme c'est un monde qui se transforme à très grande vitesse, il y en a qui sont en train de tirer vers le haut les facteurs de pouvoir et de puissance. Hein, et je pense notamment à ce qui se passe avec les Chinois ou les Indiens, qui ont envie de ramasser le pouvoir. Et pas simplement que les termes de la puissance sur le plan économique. Donc il faut arrêter de penser uniquement en termes de délocalisation industrielle ou de relocalisation des actifs. Il faut aussi s'intéresser à ce qu'ils vont nous demander dans les 4-5 ans qui viennent en termes de partage, je dirais,
du pouvoir,
du tour de table en termes d'administration du monde. Ça commence du reste. On voit au travers des débats au niveau de la réforme des Nations Unies, etc., des prémices déjà de fractures qui s'installent dans ce domaine-là. Et puis, il y a ceux qui étaient nos anciens partenaires ou alliés, ou je dirais relations de premier cercle, et bien qui, aujourd'hui, voyant l'effondrement de nos idéologies, de nos cadres de référence, sont dans une situation d'instabilité majeure. Et je pense notamment à ce qui s'est passé dans les Balkans, avec les non-alignés, et puis ce qui se passe aujourd'hui du côté du Proche et Moyen-Orient, avec ceux qui... devait nous assurer jusqu'à présent la sécurité énergétique. Et là, on est sur, au contraire, une explosion identitaire, et aussi une recherche d'affirmation d'un mode de leadership qui n'est pas forcément sur l'économique ou sur les logiques de pouvoir comme on les aimerait, mais plutôt sur un champ de confrontation ou un champ de radicalisation de la relation à l'autre. Et je pense notamment à ce qui se passe à travers toute cette crise de l'islam sunnite, avec les mouvements djihadistes, les mouvements Al-Qaïda et compagnie, qui ne sont pas négligeables pour nos sociétés, parce qu'en même temps que vous avez le Chinois ou l'Indien qui vient ramasser nos actifs, et c'est pas très compliqué, la France est à racheter aujourd'hui. Hein. Quand vous regardez, vous avez 80% des dirigeants d'entreprise qui ont 60 ans, qui sont confrontés d'un côté à l'ISF et d'autre côté à la non-transmission de leur entreprise, puisqu'on a, on a un cadre législatif et juridique dans ce domaine-là qui est pitoyable. Bon. Donc aujourd'hui, c'est les Chinois ou les Indiens qui ont des liquidités absolument gigantesques, comme les Américains, peuvent racheter sans problème ces actifs qui sont extrêmement attrayants, parce que derrière, il y a comme on dit dans les affaires, il y a un core business solide, avec des ingénieurs qui sont parmi les plus intéressants au niveau mondial. En même temps que vous avez ça, vous avez cette radicalisation identitaire sur le terrain, et qui se joue sur un deuxième niveau vital pour nous, qui est celui de la déstabilisation de nos sociétés sur le champ du religieux, du culturel et du démographique, parce que ça ne se joue pas uniquement sur un champ théorique, ça se joue aussi par de l'implantation. Et donc vous avez une confrontation qui se joue à la fois sur le plan territorial par l'implantation et sur le plan psychologique par la soumission.
Alors justement, j'ai une double...
Donc, tout ça est très très fort, parce que ce sont deux chocs, si vous voulez, qui nous impactent sur tous les niveaux. Et on croit qu'on peut se défendre uniquement sur le plan économique, alors qu'en même temps, on a cette crise identitaire.
Alors justement, je voulais vous poser une question à la fois sur l'angle économique et sur l'angle identitaire. Comment vous, le spécialiste des crises, vous analysez premièrement la crise argentine et deuxièmement la crise des banlieues de novembre dernier?
Alors, j'ai écrit un papier qui...
En fait, je faisais un peu dans ma question.
Oui, en fait j'avais fait une analyse au moment de la crise des banlieues. J'avais dit à des cercles autorisés que pour moi, on était, enfin, en termes de... Si je fais un peu de thérapie, hein, on était quelque part, comme un médecin qui fait un diagnostic, quelque part entre la crise de l'Argentine, sur le plan économique, cette rupture de confiance entre la société civile, les élites, le départ des capitaux, la fuite des jeunes, etc., ce qu'on a vécu avec l'implosion de l'Argentine, hein, c'est-à-dire l'effondrement des institutions et puis ces logiques fractales sur le terrain, et puis en même temps des espèces de syndrome de libanisation de notre société avec cette montée du communautarisme et puis cette violence qui s'exprime autour de l'identitaire. Tout le monde avait dit ça peut pas être ni l'Argentine, ni ni Beyrouth, vous allez trop loin, etc. Et puis il se trouve qu'il y avait des anglo-saxons qui étaient dans l'assistance et qui m'ont demandé de venir développer mon analyse, parce que notamment toutes les grandes banques qui sont anglo-saxonnes se posent la question aujourd'hui du risque souverain français. Et donc je suis allé à Washington, j'ai exposé cette analyse.
Le risque souverain français, rappelons pour nos auditeurs, en fait, c'est le risque qu'aurait la France d'être défaillante dans le remboursement de ses obligations du Trésor, comme l'a été la Russie, mais là par choix politique en 1917, avec les fameux emprunts russes.
Hein, quand ça s'est produit en décembre 2001 en Argentine, ça s'est traduit au bout de quelques jours par le blocage des comptes et la spoliation de l'ensemble de la population.
Oui, je crois qu'il faut bien quand même rappeler aux auditeurs, parce que quand on parle de l'Argentine, c'est loin, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. Il faut rappeler aux auditeurs que, hormis pour les plus riches, qui ont des avoirs un peu partout dans le monde, donc ça représente 0,1% de la population mondiale ou d'un pays, donc ça n'a...
Le Uruguay ou à Miami, généralement.
Voilà, pour les autres, ça a signifié le blocage des comptes et la spoliation de ce qu'ils avaient sur leurs comptes, donc que les auditeurs imaginent ce que cela signifie pour leurs petites économies.
C'est pas compliqué en Argentine, pour expliquer très clairement aux auditeurs ce que ça signifie. Ça signifie qu'à un moment donné, les banques se tournent vers l'État et que l'État décide de bloquer les comptes. Donc plus personne peut accéder à ces comptes ou tirer de l'argent, sauf avec un conditionnement très particulier. Et ce qui valait 100 au mois de décembre, eh bien au mois de juin, 6 mois après, ça ne vaut plus que 5. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en Argentine,
C'est une inflation déguisée pour réduire à zéro la créance.
Voilà. Et en Argentine, ça s'est produit lors du décrochage entre le peso et le dollar, un peso égalait à un dollar, donc tout était bien lissé. C'est comme si on avait, nous, un décrochage de l'euro, par exemple, ou voir par exemple, une situation où nous sortirions de l'euro, parce qu'un autre pays de l'euro, comme l'Italie, s'amuserait à vouloir sortir de cet arrangement monétaire qui nous arrange aujourd'hui. Mais, pour moi, de toute façon, les auditeurs peuvent retrouver ces développements sur mon site internet. Hein. J'ai un site internet www.xavierguillou.com et ils retrouveront tous ces articles ou toutes ces réflexions. Mais je me rappelle que quand j'ai exposé cette analyse, tout le monde m'a dit, mais si on est entre les trois, finalement, on n'est pas dans l'un, dans l'autre ou dans le troisième, et donc finalement, on ne risque pas grand-chose parce qu'on n'est pas dans un symptôme bien identifié.
Voilà, comme le symptôme n'est pas reproductible et comme nous n'avons pas les symptômes qui ont déjà existé ailleurs, on est épargné.
Oui, et c'est là où j'aurais dit, mais c'est la situation la plus grave. C'est comme, si vous voulez, vous n'avez pas un seul cancer, mais vous en avez trois en même temps.
Alors, vous parlez de la crise des banlieues comme étant une crise, voire une rupture, et vous étiez allé très loin dans votre article puisque vous aviez parlé de prémices d'une... Enfin, que vous aviez dit... Plus que ça, je crois que vous avez dit qu'on s'était arrêté à deux doigts de la guerre civile. Mais moi, j'ai envie de vous répondre, mais c'était un accident, pour reprendre la terminologie. C'était un accident. Regardez, voilà un an que ça s'est passé. Tout le monde a mis la main à la poche. Enfin, tout le monde, c'est-à-dire vous et moi. L'État a donné encore plus d'argent à ceux qui étaient finalement, de façon directe ou indirecte, les responsables. Et nous continuons comme ça très bien. Et nous pourrons continuer encore 100 ans comme ça à décroître et à décliner dans cet abandon de souveraineté. Donc est-ce que, comme je dis de temps en temps, la décadence, parfois, ça peut être long.
Non, là-dessus, je pense que ce qui s'est passé dans les banlieues n'est pas terminé. Ça ne fait que commencer. Et je pèse mes mots. Il n'y a que ceux qui vivent dans les bons quartiers de Paris qui pensent que parce qu'on a injecté un petit peu d'argent sur quelques caïds locaux, ça s'est calmé. Mais je crois que le feu est latent. Hein, et sous les braises qui sont apparemment éteintes, ça peut redémarrer à n'importe quel moment. L'affaire a été arrêtée au bout de à peu près une dizaine de jours parce qu'on est passé par cette phase de couvre-feu qui a créé un petit peu un coup d'arrêt. Je dirais que c'est beaucoup plus grave que ça, parce que cette crise est structurelle. Est-ce que vous savez que, par exemple, en Seine-Saint-Denis, vous avez aujourd'hui l'équivalent à peu près de 30 000 adolescents qui ont entre 14 et 16, 17 ans, qui ne vont plus à l'école. Ils sont déscolarisés.
Sur un seul département.
Sur un seul département. 30 000. Ils vivent de quoi? Ils vivent de ce que les caïds de ces banlieues veulent bien leur attribuer comme zone de chasse ou comme cahier des charges.
Et vous pensez que c'est une sorte d'armée de réserve?
Il suffit que... Attendez, moi, je ne vais pas jusqu'à dire que ces 30 000 sont prédestinés pour aller jouer au Hezbollah comme au sud Liban. J'ai connu le Liban dans les années 80. Et je ne sous-estime pas l'instrumentalisation de masse qui sont laissées à l'abandon, qui n'ont plus de cadre de référence, qui ne savent plus forcément penser par eux-mêmes, parce que je veux dire, quand vous regardez la qualité d'écriture ou la qualité de langage de ces populations, vous êtes quand même sur, vous êtes sur à peu près 150 mots viables, c'est-à-dire beaucoup moins que le langage du Parti communiste dans les années 80. Non, c'est très grave, parce que s'il suffit que vous ayez, vous savez, une vingtaine de gus qui soient un peu organisés et puis qui prennent en main ces affaires-là, et on sera sur autre chose. C'est ce que j'ai expliqué à un certain nombre de dirigeants quand on a eu les événements. Eux croyaient que c'était une réminiscence de 68. J'aurais dit, vous vous trompez de grammaire. Ce n'est pas 68. On est confronté à autre chose. Ça sort du cadre. Vous raisonnez du haut vers le bas, c'est-à-dire comme si c'était encore de la guerre révolutionnaire avec des interlocuteurs qui sont dans la dimension idéologique. Et donc vous aurez un interlocuteur pour pouvoir négocier quelque chose. Et là, c'est quelque chose qui se produit du bas vers le haut, hein, avec en plus ça des, vous voyez, comme des logiques virales qui s'installent dans un tissu sur le plan biologique et qui mutent à la vitesse de ce que vous mettez en place
alors,
en face.
Alors, quelle stratégie, Bernard Zimmern et Xavier Guillou, quelle stratégie de sortie de crise?
Alors, moi, je veux dire là-dessus, au-delà de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'assainissement du mode de fonctionnement d'en haut, je pense que il y a une reprise en main de ce que j'appelle le bas. Hein, ce que M. Raffarin a appelé la France d'en bas, ce que moi j'appelle le bas, c'est-à-dire le fonctionnement de notre société. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le premier, c'est la tenue du terrain. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un abandon du terrain. Vous parliez du problème des banlieues. Quand on voit, par exemple, qu'aujourd'hui, officiellement, ce que l'on sait tous depuis une dizaine d'années, il y a à peu près 200 zones dites de non-droit dans ce pays. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut reprendre en main très rapidement. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas négociable. On ne peut pas parler d'un côté d'une res publica, d'une chose commune qui est administrée, et avoir 200 zones qui sont franchisées. Et où
c'est les oxymores dont vous parliez tout à l'heure.
Des modes de pilotage qui sont entre les mains de caïds ou de petits mafieux, etc., qui ne respectent absolument pas les règles de fonctionnement de ce pays. Donc ça, je dirais, c'est la première chose, c'est reprendre en main le terrain. Et ça, moi, je l'ai vécu dans maintes crises, que ce soit en ex-Yougoslavie, ou à Beyrouth ou ailleurs, qui sont des crises dures. Si vous ne contrôlez pas le terrain, si vous ne le tenez pas, vous ne pouvez pas passer à la phase suivante, qui est celui du rétablissement de l'autorité, la fameuse autoritas, ce qui fait autorité, hein, ce qui fait autorité, et qui permet d'installer le respect entre les uns et les autres, autour, je dirais, de choses que l'on peut partager. Et il ne peut pas y avoir de partage s'il n'y a pas une autorité sur des principes, sur des valeurs de fond. Et il faut qu'elle soit incarnée par des hommes qui l'assument. Et il faut qu'elle soit aussi dirigée et administrée sur le terrain avec des gens qui ont les moyens pour pouvoir le faire. Et puis je dirais que la troisième chose qui est pour moi fondamentale dans tout ça, c'est le rétablissement de la confiance. La confiance, c'est, vous savez, quand vous prenez le latin, c'est faire avec l'autre. Hein. On ne fait pas dans l'angélisme en la matière. Mais c'est remettre les ingrédients qui fassent que, ce nous, qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, vous avez... L'autre jour, je faisais la remarque dans une grande conférence qu'on avait à l'IHEDN là, sur les jeunes générations et la notion d'engagement. Je disais, ça fait depuis deux jours qu'on ne fait que parler de l'État, enfin d'une certaine forme de l'État, les 56 ou 46 à qui dirige, et puis le jeu, le moi qui s'étale dans toutes les, vous savez, ces émissions où on fait dans un espèce de voyeurisme pathétique à la télévision tous les soirs. Hein. Moi, je m'exprime et je demande qu'on me reconnaisse, j'exige des droits, etc. Et le nous n'existe plus. Le nous, et ce nous ne peut pas exister s'il n'y a pas de confiance. Si on continue dans la dérive dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où tout le monde se replie dans sa petite tribu, son petit clan, sa rue, son groupe, son appartenance régionale ou locale, etc. Et puis de l'autre côté, un État qui se replie sur lui-même et qui joue l'autodéfense avec ses clans ou ses petits réseaux oligarchiques, parfois mafieux, si on continue comme ça, on va droit à la catastrophe collective. Hein. Mais ça, c'est des catastrophes généralement qui sont beaucoup moins, vertueuses que celles de l'Argentine, où on est uniquement dans un problème de gestion économique. On va beaucoup plus dans ces cas-là, dans des syndromes. C'est-à-dire que le centre de gravité va beaucoup plus sur ce qu'on a pu connaître en ex-Yougoslavie ou avec la libanisation de ce Moyen-Orient, où après vous terminez dans des confrontations civiles. Si vous n'êtes pas civique d'un côté, vous terminez très rapidement dans la confrontation civile.
Bernard Zimmern, une réaction ?
Écoutez, là, je crois que vous avez abordé un certain nombre de problèmes sur lesquels j'hésiterai moi-même à m'engager, parce qu'ils sont très importants et qui font, je crois, plus de l'ordre de la morale, de l'ordre de l'éthique, de l'ordre de sociétal. Et là, je crois qu'on peut simplement déplorer le recul fabuleux de l'Église catholique. Depuis 50 ans, pensons qu'aux États-Unis, quand même la moitié des Américains vont à un office, je crois que c'est ce qui fait encore la force de l'Amérique, alors qu'en France, c'est tombé, je crois, en dessous de 15%.
Mais vous savez, on paye une évolution qui date de deux siècles pour moi. Hein. Au 19e siècle, on a tout fait pour tuer Dieu. Au 20e, pour tuer le diable, il ne vous reste plus que la carte de crédit avec un revolving à 3 semaines, à peu près, hein, grosso modo. Donc, et puis quelques petites élites qui vous font des discours sur des taux de croissance. Je pense que c'est pas avec ça qu'on s'en sortira. Hein. Je pense qu'il faut. C'est Degnaud qui dit dans son dernier livre sur survivre. Hein, il dit quand il n'y a plus d'espoir, il ne reste plus que l'espérance.
Alors pour revenir sur l'espérance, il y a. Je pense que dans ce domaine-là, mais je vais être très bref parce que je vais le développer. Je crois que quand même l'une des choses que nous pourrons faire en France, c'est développer. Si se développe d'ailleurs actuellement très beaucoup. C'est l'altruisme, c'est les associations qui viennent aider les autres et qui reconstituent, si vous voulez, un tissu collectif. Moi, le seul domaine sur lequel j'ai travaillé et sur lequel nous avons, je pense, proposé des solutions, c'est celui qui consiste à dire que c'est très difficile de faire quoi que ce soit dans un pays, y compris les domaines que vous venez de signaler, tant que vous avez une personne sur trois qui ne travaille pas. Nous avons constaté par exemple qu'en Grande-Bretagne, ça a été la fonction publique anglaise s'est vidée littéralement de 2 millions de personnes en 20 ans parce qu'il était devenu beaucoup plus intéressant pour les fonctionnaires d'être dans le secteur privé. Pour ça, il faut qu'il y ait un mouvement aspirant, alors qu'à l'heure actuelle, la fonction publique est au contraire le refuge des gens qui ne trouvent plus d'emploi dans le secteur privé. Donc là, je crois que je ne dis pas que c'est suffisant, hein, mais l'un des éléments fondamentaux d'une réforme est de recréer au moins 300 000 emplois tous les ans.
Alors par rapport justement à la question qui était sur le choix politique, moi je dirais que un de mes critères de choix sera sur celui qui sera capable de rétablir une culture de l'audace et un sens de l'ambition. Parce qu'il ne peut pas y avoir une dimension en termes de projet collectif qui soit forte sans ces deux dimensions-là. Or aujourd'hui on a fait... On est non seulement dans ce repli que j'évoquais, mais on est dans un abandon total de ce que les Anglais appellent le leadership. On négocie tout, on est dans une espèce de consensus mou. On est dans le consensuel, la négociation permanente, etc. Non, il faut aujourd'hui que notre pays se réaffirme un certain nombre, d'engagements, de positions, de postures. On a à choisir nos cibles. À un moment donné, ça a été fait. On vit sur les royalties de ces choix-là. Il faut les réinstaller. Et pour ça, il faut travailler la force de caractère et la force d'âme de ce pays. C'est un travail qui se joue sur l'éducatif, mais qui se joue aussi sur le politique. Parce que les deux sont liés. Si on a des politiques qui sont médiocres, c'est difficile de pouvoir tirer vers le haut l'éducatif.
Avant de vous laisser le mot de la fin, je voudrais quand même qu'on donne la parole, encore une fois, aux auditeurs qui se sont largement manifestés par un grand nombre de messages. Je ne peux pas tout lire, évidemment. Certains sont parfois même très loin du sujet, même s'ils sont passionnants. Une auditrice nous dit qu'aux États-Unis, on verrait moins de SDF qu'en France, mais qu'il faut aller voir du côté de la côte ouest des États-Unis, Los Angeles, San Diego, etc. Un auditeur me dit que la citation « Les décadences, ça peut durer longtemps, voyez Rome » serait de Céline. Donc nos auditeurs sont toujours très, très cultivés et très informés. L'émission est très intéressante, nous dit un auditeur. La solution sur les moyens de contrôle de l'État, des administrations, la solution par Monsieur Jean Roux est dans son livre « La grande braderie du patrimoine français » et il préconise un suivi dans chaque administration. Donc, oui, il fait référence donc, au livre de Jean Roux qui est en effet est un livre tout à fait intéressant, écrit d'ailleurs par un expert comptable commissaire aux comptes. Pour M. Bernard Zimmern, certes, ce sont les administrations qui sont à l'origine de la multiplicité des lois et des règlements, mais ce sont quand même les députés qui votent et finalement approuvent, donc ils sont responsables. Allez-y, Bernard Zimmern, répondez en un mot.
Pas du tout, justement, quand un député veut s'opposer, et nous avons plusieurs cas dans le livre, regardez-le, nous avons plusieurs cas de députés qui ont fait voter le rejet, l'abandon, de retirer des textes du gouvernement, et le gouvernement, depuis la 5e République, a les moyens de leur faire passer à travers la gorge, et c'est ce qu'il fait. J'ai assisté à je ne sais combien de séances de l'Assemblée ou du Sénat, où un petit sous-chef de bureau fait passer à travers la gorge de nos députés l'inverse de ce qu'ils veulent qu'ils votent. Donc là, actuellement, nous sommes. Je ne souscris pas du tout à cette position. Je crois que nous sommes vraiment devant un cas où l'administration contrôle, mais comme des prisonniers, nos parlementaires.
Je rappelle quand même à cet auditeur que pour s'en convaincre absolument, il faut lire le hors-série Le Parlement bâillonné du mensuel Société civile de l'IFRAP, qui est au prix de 21,50 €. Vous pouvez le commander, 5 rue Cadet dans le 9e à Paris, téléphone 01 42 33 29 15. Nous laisserons au standard d'ailleurs les coordonnées. Un auditeur nous dit qu'il est pour le moins agaçant de ne pouvoir accéder au véritable site internet IFRAP. Un site américain est proposé dans la recherche Google. Que faire? Alors IFRAP, IFRAP.org.
Il y a un problème, c'est ce week-end, le serveur est, paraît-il, en réajustement. Donc, bon. En effet, pardonnez-nous si ce samedi et le dimanche, il y a un problème.
Alors, reprenons donc nos messages d'auditeurs. Un auditeur, j'ai interrogé l'assistante parlementaire du député investi du dossier sur les fonds de pension. Pour étayer ce dossier, il m'a été répondu qu'il ne disposait d'aucune information à ce sujet et que, pour ce faire, il s'adressait à Bercy pour préparer le dossier.
Voilà.
Un auditeur, pouvez-vous expliciter pourquoi la France est aussi peu présente à l'APEC, l'Association de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, alors qu'elle a des départements dans le Pacifique?
Oui, tout à fait.
Excellent. Alors, je vous propose de lire tous les messages et ensuite de répondre. Excellente émission, nous dit un auditeur, nous le remercions. Pour avoir une idée de l'évolution des choses, il y a deux livres importants, « L'Amérique assassinée » de Philippe Vermont et « Les espérances planétariennes » de Hervé Risson. Et je ne connais pas ces deux livres, mais je fais confiance aux auditeurs. Un auditeur nous demande si le spécialiste des crises pourrait rappeler son site internet et épeler son patronyme.
Alors c'est www.xavierguilhou.com.
Et une auditrice, compliment. Alors nous avons beaucoup de messages de félicitations, donc je vais en lire qu'un seul. Compliment, nous dit une auditrice à ces messieurs, très bien informés et courageux. Et enfin, un dernier message par Internet. Merci d'évoquer le cas de l'Argentine qui, selon de nombreux intervenants économistes sur Radio Courtoisie, pourrait préfigurer le devenir de la France. Le cas de l'Argentine est tout à fait intéressant car il nous montre comment un pays s'est sorti d'un endettement faramineux, bien moindre, nous dit cet auditeur, que la dette française cependant. Premièrement, l'Argentine est sortie de son endettement intérieur en ruinant tout bonnement le peuple argentin qui a vu son pouvoir d'achat s'effondrer. Deuxièmement, quant à ses créanciers internationaux, ils ont été invités à s'asseoir sur les trois quarts de leurs créances, c'est-à-dire que la dette argentine a été pour partie nationalisée, on pourrait même dire internationalisée.
Oui, mais c'est ce qui pourrait arriver à la France, hein, faut pas se faire d'illusions. Donc on risque d'avoir, dans ces cas-là, une confrontation avec la réalité qui sera d'un autre niveau. Hein. Peut-être pour répondre aux différents,
Xavier Guilhou.
Très rapidement, je dirais que C'est vrai que pour la question de l'APEC,
en 30 secondes.
Oui, sur la question de l'APEC, moi je partage l'avis de l'auditeur. Nous sommes quasiment, nous sommes très 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 peu présents sur ce qui se passe sur l'Asie-Pacifique aujourd'hui. Les grands groupes privés se sont massivement investis sur ces zones-là, mais
Bernard Zimmern, un mot de conclusion, car vraiment nous arrivons au bout de notre émission.
Je veux dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir mon voisin, Liu, qui m'a ouvert des horizons et donc enrichi Radio Côte d'Azur, vraiment un enrichissement.
Prends la parole pour dire en un mot que l'avenir n'est pas écrit, mais que les difficultés sont le lot des hommes. Seule la volonté de les surmonter change le cours de l'histoire. Amis auditeurs, à dans un mois.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal des lycéens, dirigé aujourd'hui par Hugues Sérapion, diffusé en direct samedi 2 décembre 2006 de midi à 13h30, en différé l'après-midi de 16h à 17h30, dimanche 3 dans la nuit de minuit à 1h30 et lundi 4 dans la matinée de 7h30 à 9h. Ce libre journal a été réalisé par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez la cassette pour le prix franco de port de 11 euros ou 9 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.